RFI à 7h42 en temps universel et tout de suite le journal des sports. Avec vous Christophe Ziremzian, du football, la dernière ligne droite vers le CHAN 2025, elle est entamée avec les matchs aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires.
Il y a encore 15 places à prendre en fin de semaine prochaine, les sélections exemptées de premier tour entrent en action et bien entrées dans le cas de la Guinée, victorieuse hier de la Guinée-Bissau, 4-1 à l'issue d'un match délocalisé à Abidjan. Le Sili National A' a fait la différence en seconde période. Le sélectionneur Souleymane Camara est satisfait que ses joueurs aient trouvé des solutions face à un adversaire, il est vrai, peu connu.
Nous avons pris une option sur les adversaires. Pour un premier temps, jouer contre un adversaire, je l'avais dit au départ, c'est très difficile. Il fallait d'abord avoir une idée avant d'attaquer haut. Et c'est ce qui fut fait. Et on les a mis en danger à un moment donné. Il y a eu des buts tout de suite. Je suis très content de mes poulains. Mais vous savez, le football, il ne faut pas vite aller en besoin. En tant que sélectionneur, c'est de continuer à faire mon boulot, corriger les lacunes, regarder les images après et on aura le temps. Nous avons encore 7 jours pour le match retour et améliorer tout ce qui a marché. Nous avons eu la volonté aujourd'hui de marquer 4 buts. Le plus important d'abord, peu importe la manière, c'est de se qualifier. On va bien préparer le match retour avant d'aller à Bissau.
Souleymane Camara avec Moulamine Sissavalé, match retour samedi prochain. 6 nouvelles rencontres au programme aujourd'hui. Tchad, RDC, Burundi, Ouganda, l'un des pays organisateurs du CHAN met en lice pour l'honneur. Lesotho, Angola, Guinée équatoriale, Congo, Mozambique, Zambie et Eswatini, Madagascar.
Demain, la Côte d'Ivoire retrouvera le Burkina Faso pour un match qui a un air de déjà-vu.
Et oui, remontons 2 ans en arrière. Septembre 2022, les Ivoiriens barrent in extremis la route du CHAN au Burkinabé en s'imposant au tir au but lors du dernier tour éliminatoire. Ça ne leur déplairait évidemment pas de récidiver et ils se préparent activement à cela. Reportage Moulamine Sissavani.
Les 25 éléphants ivoiriens retenus pour cette double confrontation sont à leur avant-dernier entraînement ce vendredi soir à Abidjan.
Quand on a fait une préparation, qu'on pense bien ou pas, et puis important c'est que dimanche, on soit prêt pour l'événement.
Aux manettes, Romaric Ndrikofi, nommé il y a tout juste un mois. En raison du calendrier, il n'a pu faire la préparation qu'il espérait.
Au niveau de l'aspect physique, on n'est pas précis. On essaie de gérer la charge comme on peut. Au niveau de l'aspect mental, on sait que ça va être très difficile. Donc on essaie de préparer les joueurs par rapport à cet aspect de force, de combat, d'agressivité et de l'intensité.
Parmi ces joueurs, le défenseur Landry Zouzou.
On ne connaît pas forcément l'adversaire, mais on a des amis là-bas avec qui on a joué en club avant, ici en Côte d'Ivoire. On essaie de voir comment est-ce qu'il se comporte et puis travailler et agir. Notre objectif, c'est de prendre l'avantage ici à Abidjan et terminer le travail à Bamako.
Valider la qualification à Bamako au match retour et aller au CHAN pour prier comme la sélection A à la CAN. C'est ça l'idée, mais le coach Romaric veut y aller par étapes.
On espère faire comme Emes et son staff. Ça passe d'abord par le match de dimanche. Il ne faut pas regarder plus loin, il faut regarder juste dimanche. D'abord faire le match qu'il faut faire un pas vers la qualif et après on ira à Bamako.
Romaric Ndri et ce joueur avaient en tout cas à leur côté Emers Faye, coach de la sélection A, pour sans doute servir d'exemple et distiller des zones positives. Maud Amine Sissavané, Abidjan, RFI.
Et le journal des sports signé Christophe Diremzian. Christophe, à demain.
À demain.
Bonjour Jean-Baptiste Placam.
Bonjour Julien Coquelroem.
Alors que la CDAO tente de retenir dans ses rangs le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le chef de la junte au pouvoir à Niamey a rejeté cette semaine toute main tendue, insistant sur le caractère irréversible de leur décision. Est-ce à dire que les perdants dans cette rupture sont finalement ceux qui demeurent dans la communauté ?
Il n'y aura pas de gagnants et les plus gros perdants seront bien les peuples des États qui claquent la porte. C'est justement parce que de telles décisions sont graves de conséquences qu'elle devrait demeurer le privilège de leaders ayant l'onction du suffrage universel et pas de putschistes qui assimilent leur orgueil personnel à l'honneur de leur patrie. Entre ces États sahéliens et leurs voisins immédiats, l'interdépendance est telle que les considérations d'amour propre ne devraient pas y prévaloir. On ne quitte pas une organisation parce qu'elle vous applique les textes qui la fondent. Après tout, il y a des règles dans toute communauté. Même la mafia a son code d'honneur que l'on n'enfreint pas impunément. Certes, pour avoir trop souvent appliqué à la carte ses propres règles et principes, la CDAO s'était beaucoup discréditée aux yeux des populations ces dernières années. Mais cette rupture est une diversion qui rejaillira sur tous les citoyens de ces États et leur diaspora importante dans la sous-région.
Ces 3 États annoncent dispenser de visa les ressortissants des pays de la CDAO, libres d'entrer, de circuler et même de s'établir dans l'espace de leur confédération. Peut-on parler d'une preuve de bonne volonté ?
C'est surtout une manœuvre grotesque qui trahit l'inconséquence de leur démarche. Pourquoi n'applique-t-il donc pas ces exemptions à toute l'Afrique ? Une concession aussi ciblée vise surtout à quémander par la force une réciprocité. Ils anticipent la réprobation de leurs concitoyens qui ne manqueront pas de leur reprocher cette rupture lorsqu'elle commencera à leur compliquer singulièrement l'existence. Alors, plutôt que d'assumer leur méprise, ces dirigeants accuseront les voisins d'en vouloir à leur peuple. Lorsque l'on se saisit arbitrairement du destin d'un peuple, la décence élémentaire commande de préserver ses intérêts réels et cette décision n'est pas dans l'intérêt de ces peuples. Les discours rejetant tout leur malheur sur des ennemis extérieurs, des traites internes ou de soi-disant renégats ne suffiront pas à la justifier. Ils lasseront d'autant que ces militaires s'avèrent incapables d'améliorer la sécurité et les conditions de vie de leur peuple. Plus de 4 ans après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, près de 3 ans après le renversement de Roch-Marc Christian Kabore et bientôt 1 an et demi après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, ni les Maliens, ni les Burkinabés et encore moins les Nigériens ne vous diront qu'ils sont un peuple heureux, en sécurité, à l'abri des privations et de la vie chère. Les nouveaux riches en treillis que l'on voit parader dans les capitales ne sont pas le meilleur indicateur du bonheur de ces peuples. Ceux qui ont cru à ces coups d'État réalisent avoir fait un mauvais calcul qui ne fera qu'empirer après la rupture avec la CEDEAO.
Et pourtant la CEDEAO, vous l'avez souvent dit ici Jean-Baptiste, est discréditée.
Sans aucun doute, et pour espérer redorer un blason durablement terni, elle devra se réinventer. Mais hormis le fait géographique, le seul dénominateur commun entre ces 3 pays enclavés est d'être dirigé par des putschistes, un peu comme une alliance de parias. Elle aurait été plus crédible si elle émanait de dirigeants dûment élus. Et puis, lorsque Rawlings prenait le pouvoir au Ghana en 1979 puis en 1981, ses concitoyens avaient une idée claire de ce qu'ils pensaient et ce dont ils rêvaient pour son peuple. Sankara, en 1983, avait un discours d'autant plus clair qu'il n'était emprunté à personne. Mais ici, on se demande quelle peut bien être la vision des putschistes d'aujourd'hui. L'on n'entend que des tâtonnements dans leurs discours truffés d'extraits picorés chez Rawlings, Sankara ou même Sékou Touré. Et c'est bien insuffisant pour des peuples qui ont déjà donné et que l'on voudrait à présent persuader du bonheur de vivre coupé de leur environnement naturel.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup.
RFI Matin.
180 journalistes tués depuis 13 ans. Le bilan de l'ONG Reporters sans frontières en Syrie depuis la révolution de 2011 jusqu'à la chute du régime de Bachar al-Assad il y a 2 semaines. La Syrie est devenue en 13 ans le 2e pays le plus dangereux au monde pour les journalistes derrière l'Érythrée. Beaucoup ont fui le pays au début de la révolution, comme celui que vous avez rencontré, Théo Renaudon, pour Menace sur l'information.
Là, on est à Radio Rosanna, c'est une radio créée il y a 10 ans à Paris par des journalistes syriens exilés. Aujourd'hui, elle est suivie par des milliers d'auditeurs. Celui qu'on entend là, c'est Mohamed Alaj. La chute de Bachar, pour lui,
c'est le plus grand moment de ma vie, je pense. C'est la libération du journalisme aussi, c'est pas la libération de Syrie. Je suis quitté la Syrie en 2013. J'étais une journaliste citoyen, militant citoyen.
Pendant la révolution ?
Pendant la révolution contre le régime de Bachar.
Vous filmiez, vous manifestiez ?
Manifester, filmer, écrire les infos sur les réseaux sociaux, moi, juste pour Raqqa.
C'était dangereux, ça ne plaisait pas au régime.
Très très dangereux. Et ils cherchent toujours qui a filmé. On ne travaille pas avec notre nom. Moi, je m'appelle Guevara de Raqqa. C'est pas Mohamed.
Beaucoup de prisons ont été ouvertes, beaucoup de prisons du régime. Est-ce que des journalistes ont été libérés de ces prisons ? Est-ce que vous avez des nouvelles de certains ?
Non. Personne à sortir.
Ils ont été quoi ?
Je sais pas. On peut pas dire ils sont morts. Les familles de eux, ils sont pas acceptés de dire ils sont morts. Pas de nouvelles pour toutes les journalistes. Ils sont en prison de Bachar al-Assad.
Comment les HTS, donc ceux qui sont en tête de la coalition au pouvoir aujourd'hui, traitent les journalistes ?
Il y a des lignes rouges. Par exemple, la corruption, les libertés de monde, les libertés de femmes. Mais c'est pas très mal comme la régime de Bachar el-Assad.
Est-ce que vous, Mohamed, aujourd'hui, vous comptez rentrer en Syrie pour faire votre travail un jour de journaliste?
Un jour, oui, mais maintenant, non.
Pourquoi?
Bachar el-Assad est tombé. Mais la liberté de journalisme, je ne suis pas sûr que je peux travailler en Damas comme ici.
Même s'il ne revient pas en Syrie, Mohamed, sourire aux lèvres, se dit très fier de sa génération qu'il appelle lui-même.
La génération de la révolution.
Théo Renaudon pour Menace sur l'information. Bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche à sa fin. Mais d'abord un nouvel épisode d'Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup. On découvre chaque semaine un mot francophone à travers le témoignage d'un amoureux, d'une amoureuse de la langue française.
C'est un mot qui appartient à un registre plutôt soutenu, qui n'est pas connu de la majorité des francophones et qui permet de montrer une certaine culture quand on l'utilise.
D'après vous, quel est le mot qui a le plus marqué 2024? Les éditions du Robert ont dévoilé cette semaine le top 10 des mots les plus consultés sur le site de leur dictionnaire en ligne. Alors évidemment, j'ai voulu savoir lequel arrivait en tête du classement et j'ai posé la question à Géraldine Moinard. Elle est lexicographe et c'est la directrice de rédaction aux éditions du Robert. Attention, roulement de tambour, le grand gagnant est...
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Alors ce mot, c'est hubris. C'est très rattaché à l'Antiquité grecque. C'est l'orgueil démesuré qui va pousser à l'excès et qui souvent entraîne une punition divine. Parce que faire preuve de trop d'orgueil, c'est se mettre à l'égal des dieux. Et ils n'aiment pas ça du tout. Donc c'est un orgueil qui entraîne la perte de la personne qui est orgueilleuse. Et puis, de manière générale, aujourd'hui, l'hubris, c'est simplement l'orgueil démesuré, l'excès.
Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce mot ait été très recherché cette année ?
Alors ce mot est très apprécié des médias depuis plusieurs années, on le voit beaucoup, mais cette année en particulier, sans doute parce qu'il y a un contexte qui s'y prête, on le retrouve d'abord en juin, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, et en particulier le 7 juillet, le jour du second tour des législatives, donc très employé au sujet d'Emmanuel Macron, notre président. On le retrouve aussi beaucoup sur la deuxième quinzaine d'octobre, au moment de la campagne électorale américaine, et là, très associé à Donald Trump. Et puis, tout au long de l'année, on le voit aussi associé dans la presse à beaucoup de personnalités, en particulier Benjamin Netanyahu ou Elon Musk.
Alors, ce mot, c'est un mot qui est assez rare, qui appartient à un registre soutenu. Qu'est-ce que ça dit de la personne qui l'utilise ?
Ça montre un peu d'élitisme. Il y a une volonté des personnalités, en particulier politiques, de faire du bon mot. De Gaulle le faisait en son temps, Emmanuel Macron le fait beaucoup quand il parle de poudre de perlimpinpin, de carabistouille. Il prend un mot rare et ça marque les esprits, on en parle beaucoup. Et puis comme ça, on s'intéresse aux mots plutôt qu'au reste du discours.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de phrase dans lequel on pourrait l'utiliser ?
Alors, des phrases de tous les jours, c'est pas évident parce que vous allez tout de suite paraître un petit peu pédant, je pense, si vous utilisez hubris. Mais on a beaucoup d'exemples de gros titres d'articles de presse. Je peux vous donner l'exemple. La dissolution par Emmanuel Macron, hubris présidentiel, calcul politique ou esprit gaullien.
Est-ce que ça vous a étonné quand vous avez découvert que c'était le mot qui arrivait en tête des recherches ?
Oui, c'était plutôt étonnant parce que c'est un mot rare et c'est pas la préoccupation, on va dire, du commun des mortels. Et en même temps, c'est un mot intéressant parce que c'est une reprise directe du grec ancien. C'est pas si fréquent, donc c'est assez agréable de voir aussi des mots rares qui sont ressuscités, qui reprennent vie. Alors, on ne sait pas pour combien de temps. En général, il y a un mot qui c'est un peu l'effet de mode et puis on passe à autre chose. Après, ce mot pourrait durer. L'orgueil démesuré, la folie des grandeurs, c'est quelque chose quand même qui est assez symptomatique de l'époque. Donc, on peut supposer qu'on aura encore besoin du mot un certain temps.
Selon le site Robert Dico en ligne, hubris est un nom féminin qui désigne un sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et entraîne sa perte.
C'était un mot, une histoire. RFI Matin.
Et un peu de musique avant de nous quitter, le groupe afro-caribéen The Bongo Hop et le chanteur haïtien Kefni El Yassine, le titre Déconnecté dans la sélection du mois d'RFI.
Zombie, croisé, pas qu'à parler. Fomi, la caille, on ne va pas aller.
a fin crasé, tout col, y'en voit que l'envie couler. Projet, problème, déconnecté. Et si vous demandez comment lier, la vie ou toute bagaille en forme qu'on s'en habite. Sans play, un lit à l'avancée. Lirez de quoi que la vie sans boule café ou lait. Ligis blanti dans, poule fond posé, poule fait mégel pour voler. Coq chanté, poule prend danser, poule prend relé. Bagaille en forme qu'on seul habitué. Sans play, un lit à l'avancée. Si qu'on aime bien la vie, son boule café ou lait.
The Bongo Hop et le chanteur Kefni Eliassine, le titre Déconnecté dans la sélection du mois d'RFI. Merci d'avoir suivi cette édition d'RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. On se retrouve demain. Très bonne journée sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous donnons la parole à 5 jeunes journalistes africains spécialisés dans l'économie. Basés à Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou et Kinshasa, ils nous font revivre 2024. Les bouleversements au Sénégal, la crise entre l'AES et la CDAO, les défis miniers et énergétiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.